France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, José Bernès, Antoine Giraud et Olivier Dehay. Voici la première de deux émissions que nous allons consacrer au compositeur Anton Rajcha, que les Français appelaient Antoine Rajcha, et les Tchèques Antonín Rajcha, lui qui est né à Prague le 26 février 1770. Ce sera donc mercredi prochain le jour de ses 250 ans. En cette année des 250 ans de Beethoven, que Rajcha avait connu et côtoyé à Bonn puis à Vienne, nous y reviendrons. Mais pour ouvrir cette première émission sur ce compositeur qui sera le disciple de Haydn, l'élève de Salieri et le professeur de Berlioz, Gounod, Liszt et autres César Franck, voici une partition de Rajcha qui témoigne de son talent de flûtiste avec un quatuor formé de Joseph Rampal et de trois de ses élèves, son fils Jean-Pierre Rampal, Maxence Larieux et Alain Marion.
Thank you.
1967, un quatuor formé de certains des plus grands flûtistes du monde, Jean-Pierre Rampal et son père Joseph, Maxence Larrieux et Alain Marion, dans ce quatuor en ré majeur opus 12 d'Antonín Rejcha, comme l'on dit en tchèque, Antoine Rejcha, prononciation qui a divergé à son époque, alors elle divergera au cours de ces deux émissions. C'est ce Rejcha qui est notre héros de ce début de semaine. Antonin Joseph Rejcha naquit à Prague le 27 février 1770. C'est en ces termes que commence l'une des rares biographies qui lui est consacrée en français par le compositeur Maurice Emmanuel, qu'il avait écrite en 1936 pour le centenaire de la mort de ce flûtiste et compositeur. Il n'avait pas un an lorsque son père mourut, poursuit Maurice Emmanuel. Sa première instruction fut négligée. À 11 ans, il ne savait rien. Il est rare qu'à cet enfant un âge s'aperçoive de son ignorance, et plus rare encore qu'il en souffre. Mais Antonine avait le désir passionné de devenir un homme. Et bien, nous allons entendre en musique comment il est devenu un homme et surtout un compositeur charnière entre ces deux générations, celle de ces compositeurs viennois que je citais, viennois entre guillemets, si on peut citer Beethoven né à Bonn, et Mozart, Haydn, qui seront les deux grandes références d'Anton Rejcha. Et puis de l'autre côté, tous ces compositeurs que je citais et que Rejcha, dans la deuxième partie de sa carrière, va former après l'Empire, lui qui a traversé les espaces européens et traversé aussi les tempêtes de l'histoire. Nous y reviendrons. Voici ce qui a fait le succès d'Antonín Rejcha aussi bien à Vienne qu'à Paris. Ce sont ses symphonies. Une de ses symphonies qui est la plus souvent interprétée, c'est l'opus 41 en mi bémol majeur, ici interprété par l'orchestre symphonique de la radio de sa ville natale, Prague, dirigé par Andrei Kukal.
Thank you.
Andrzej Kukal dirigeait l'orchestre symphonique de la radio de Prague dans le premier mouvement de cette symphonie en mi bémol majeur, opus 41 d'Anton Reicha, qui a été composé en 1799-1800, c'est-à-dire lors du premier séjour de ce compositeur à Paris. Il avait 29 ans, lui qui est né, je vous le rappelle, en 1770, tout comme Beethoven. Reicha était orphelin de père. Il a trouvé refuge chez son oncle, le compositeur Joseph Reicha, dont la femme était française. Il a donc appris dès son plus jeune âge et l'allemand et le français, ce qui a facilité évidemment son séjour à Paris. De même qu'il a appris le piano, le violon et surtout la flûte, dont il était un virtuose. Et lorsque son oncle Joseph Reicha a été nommé Kapellmeister à Bonn, eh bien son neveu l'a suivi. Et c'est dans l'orchestre de l'électorat à Bonn qu'il a croisé l'archer avec un certain Ludwig van Beethoven. On reviendra sur les relations entre ces deux compositeurs. Et s'il a côtoyé Beethoven, Reicha s'est toujours tenu à distance du compositeur Beethoven. Ses grands modèle était plutôt Mozart et Haydn, comme on va l'entendre dans quelques instants. La Révolution française va disperser cet orchestre de Bonn. Reicha se retrouve pendant quelques années à Hambourg, où il écrit deux opéras qui passent inaperçus. Il devient professeur de musique, ce qui sera une de ses principales fonctions, étudiant lui-même inlassablement non seulement la musique, mais également la littérature, la philosophie. Il était gourmand de tout, ce Reicha. Et au bout de 5 ans, à Hambourg, eh bien, il déménage de nouveau pour s'installer en France en 1799. On ne peut s'imaginer la sensation que j'éprouvais en voyant pour la première fois Paris, cette capitale où tant d'événements extraordinaires avaient eu lieu. Nous reviendrons sur le séjour parisien demain, mais pour l'heure, voici un des modèles de Reicha, c'est Mozart avec sa symphonie Hafner, dont nous écouterons des variations un peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'original, premier mouvement de la 35e symphonie de Mozart, interprété par l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Joseph Krips sur France Musique.
Thank you.
Joseph Krips dirigeait l'orchestre du Concertgebouw Amsterdam dans la 35e symphonie de Mozart en ré majeur Köchel 385, la symphonie Hafner. Nous écoutions le premier mouvement qui fait l'objet d'une fugue dans l'opus 36 d'Anton Reicher. Reicher a laissé quelques partitions pour piano qui sont commentées par Guy Sacre dans son dictionnaire. Je cite, un amoureux fervent et un savant austère, amoureux de rythmes neufs, de modes anciens, d'expériences harmoniques improbables, mais savant au suprême degré, auteur de riches et féconds traités, obsédé de pédagogie et scrupuleux au point de se garder de montrer en public son bric-à-brac, ses cornues, ses petites et grandes trouvailles, se contentant d'enseigner la tradition avec un grand T au moment même qu'il en sapait quelques antiques fondements. Et Guy Sacre commente ici les 36 fugues opus 36 qui sont publiées en 1805 et que Reicher dédie à Haydn, son maître à penser. C'est un pavé dans la mare contre un pontique et la revendication, par le biais d'une forme archaïque, de la plus singulière modernité. Ces fugues firent frémir les fétis et les cherubini par leur licence, déplurent même à son ami Beethoven, dont elles offusquaient la croyance en une tonalité stable et bien affirmée. Elles envoie au diable la sacro-sainte réponse à la quinte, se permettent les modulations les plus lointaines et ne se croient pas tenues de finir dans le ton où elles ont commencé. Elles adoptent des sujets extravagants, jouent de rythmes étrangers au commun des compositeurs, taquinant l'impair, additionnant les maîtres et même les superposant. Elles aiment la digression et, tournant brusquement le dos à la polyphonie, se lancent dans la fantaisie. On pourrait craindre que cette recherche d'originalité n'ait produit que des monstres, laids et rabougris. Il n'en est rien. Le résultat fréquemment est d'une surprenante beauté. Thank you. Les 36 fugues pour le pianoforte éclairent mieux que toute autre œuvre de Reicha les tendances personnelles de l'auteur. Voilà ce que son biographe Maurice Emmanuel écrivait en 1936 au sujet de ces 36 fugues pour le pianoforte composées d'après un nouveau système. C'est le titre officiel de cette partition publiée à Vienne en 1805, mais composée dans les années précédentes, entre 1797 et 1803, des fugues dédiées à Joseph Haydn et dans lesquelles il y a quelques citations d'autres compositeurs comme Haydn ou comme Mozart, comme on vient de l'entendre, et ça se terminait ici avec une fugue modale à deux sujets.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Lorsque je lui rendis ma première visite à Vienne, il était à son piano, cherchant l'accompagnement d'un air écossais. Je lui témoignai mon étonnement de le voir occuper une si humble besogne. Il me répondit que cela l'entretenait dans l'art de moduler. Telle fut la réponse d'un maître âgé de plus de 70 ans. Reicha quitte la France en 1801 pour se rendre à Vienne et pour prendre des leçons auprès de Joseph Haydn, qu'il admire au-delà de tout. Haydn ne lui donnera pas forcément de leçons, mais quelques conseils. Et il va l'orienter plutôt vers Albrecht Berger et vers Salieri, qui vont parfaire la formation d'Anton Reicha. Mais Reicha restera toujours à l'écoute de ses symphonies et de ses quatuors de Haydn, comme en témoigne cet opus 48 numéro 3, quatuor à cordes en mi bémol majeur, publié en 1802-1803 et ici interprété par le quatuor Kreutzer. Peter Shepard Skerverd et Mihailo Trandafilovski au violon, Morgan Goff à l'alto, Neil Heide au violoncelle, c'était le quatuor Kreutzer dans l'opus 48 numéro 3 d'Anton Reicha, deuxième mouvement, l'argot de cette partition de 1801-1802, inspirée de Haydn et peut-être encore plus de la musique de Mozart. Yannick Nézet-Séguin, à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe, dirigeait ainsi la marche des prêtres au deuxième acte de la Flûte enchantée de Mozart. C'était la version originale de cette partition qu'Antonín Reicha va reprendre pour une sonate en fa majeur, ici interprétée par Victoria Vassilenko, suite de thèmes et variations.
Thank you.
On a longtemps fait à Raïcha une réputation de froideur et de sévérité, vite estompée quand on prend la peine de lire sa musique. Son œuvre pianistique attend encore d'être explorée avec minutie, débroussaillée, dûment cataloguée. Il y a plus de 20 ans, voilà ce qu'écrivait Guy Sacre dans son dictionnaire de piano, et depuis, de jeunes musiciens comme Victoria Vassilenko se sont emparés de la musique de Raïcha. Victoria Vassilenko enregistrée en 2017 à la chapelle Reine Elisabeth Bruxelles pour la firme Alpha. Dans cette sonate pour piano de Raïcha qui reprend un thème de la flûte enchantée de Mozart, la marche des prêtres.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
D'ailleurs, je vous signale que mercredi prochain, le jour du 250e anniversaire de Raïcha, Jean-Baptiste Urbain sera au téléphone avec Ivan Illich, le pianiste qui a enregistré récemment plusieurs des œuvres pour piano de Raïcha, justement. Alors, on écoutait tout à l'heure le premier mouvement de la symphonie opus 41 avec un orchestre pragois, la ville natale de Raïcha. Voici maintenant la Capella Coloniensis, dirigée par Hans Martin Linde, dans le final de cette partition en mi bémol majeur.
Thank you.
Hans Martin Linde dirigeait la Capella Coloniensis, donc de Cologne, dans le final de cette symphonie opus 41 de Antonin Reichardt, qui, comme son maître à penser Haydn, réserve quelques surprises, quelques ruptures dans son discours musical. Reichardt, qui, je disais, avait côtoyé Beethoven, et il entamène dans un texte assez précieux, en tout cas assez attachant. Beethoven était notre organiste à la cour. Nous avons passé 14 ans ensemble, second Oreste et Pylade, nous ne pouvions nous séparer dans notre jeunesse. Nous nous revîmes à Vienne après une séparation de 8 années. C'est là que nous nous communiquions tout ce que nous faisions de nouveau. Il aimait beaucoup ma cantate de Léonore et me disait souvent « Si j'étais le prince Esterhazy, je la ferais exécuter comme elle le mérite ». Un jour, Beethoven exécuta à la cour un concerto de Mozart pour le piano et me pria de lui tourner les pages. À tout moment, les cordes de l'instrument cassaient et sautaient en l'air. Les marteaux s'embarrassaient dans les cordes cassées. Beethoven, voulant à tout prix terminer son morceau, me pria de dégager les marteaux à mesure qu'il s'arrêtait et d'enlever les cordes cassées. Ma besogne était plus grande que celle de Beethoven, car il me fallait sans cesse sauter à droite, à gauche et tourner autour du piano pour faire face à tous les malheurs. Fin de citation. Alors, outre l'anecdote à prendre avec des pincettes, bien sûr, sur ce concerto au marteau cassé, il y a la mention de cette cantate Léonore. Je disais tout à l'heure que Reichardt avait séjourné en 1799 à Paris, et il se trouve que l'un des opéras à l'affiche à cette époque, c'était Léonore ou l'amour conjugal d'un certain Pierre Gaveau sur un livret de Jean-Nicolas Bouilly. Très certainement, Reichardt a assisté à des représentations de cette Léonore, qui bien plus tard va inspirer le livret de Fidelio de Beethoven, composé en 1804-1805 pour sa première version. Mais Reichardt a composé juste avant le Fidelio de Beethoven une cantate Léonore, dont Beethoven était donc amateur, et dont voici l'ouverture par l'orchestre de chambre de Prague, dirigé par Ludomir Mattel. En suspens la cadence dans cette ouverture de Rajcha de Lénore par l'orchestre de chambre de Prague dirigé par Lubomir Mattel. Cette Lénore qui s'inspire d'un poème de Gottfried August Bürger qui va inspirer plus tard Franz Liszt ou Henri Duparc. Lénore qui est cette jeune femme emportée par un cavalier qui est en fait un spectre, d'où cette chevauchée. Une Lénore composée en parallèle avec la Léonore de Beethoven qui est elle inspirée de Jean-Nicolas Bouilly. Donc deux histoires différentes, un titre qui se ressemble, deux partitions qu'on peut mettre côte à côte, bien sûr, comparaison n'est pas raison, Beethoven n'emporte haut la main, mais on peut quand même écouter un autre extrait de cette Lénore d'Antonin Rajcha, avec ici dans le titre Magdalena Hayosiova. Thank you.
Zum des Rades Spindel absichtbar liegt beim Mondenlicht ein luftiges Gesindel.
Thank you.
Beethoven, auteur de Léonore, admirait cette cantate de Reicha, Lénore, avec deux histoires à ne pas confondre. Celle-ci s'inspire de Gottfried August Bürger, avec ici Pavel Kamas dans le rôle de Wilhelm, le cavalier spectral, Magdalena Ayosiova dans le rôle de titre, et le chœur philharmonique tchèque de Prague et l'orchestre chambre de Prague dirigé par Lubomir Mattel.
À réécouter sur francemusique.fr.